Chers amis, Hachem Alechem, Tihyou, Leorechemim, Tobim, Ishanim, Naimim. Nous sommes dans Parashat Vayeshev. Ezanu Beshem Adonai, Ose, Shamaim, Vaaretz. Donc, le début de la Parasha, il est dit, Vayeshev, Yaakov, Beres, Megure, Aviv, Beres, Kenaan. Yaakov s'est donc installé dans le pays où a vécu son père. Beres, Megure, Aviv, la terre de Kenaan. Rashi nous dit, Vayeshev sous-entend que Yaakov s'est dit que le temps de l'installation est arrivé. Donc il a priori, derrière lui toutes les épreuves. En particulier, la plus difficile, c'est celle de Esav. Bien qu'il ait eu à subir l'agression de Dina. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'à partir de l'installation de Yaakov sur le territoire. Donc il pense se pouvoir à présent construire sa maison, établir la cohésion entre ses enfants, comme il est dit. Et les Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance ou la continuité de Yaakov qui est Yosef. Donc tout a été l'intention, toute la construction des Shvatim était initialement dans l'idée de donner naissance à Yosef. Et Yosef est la continuité de Yaakov. La construction, donc il s'agit dans cette paracha-là de construire l'unité des Shvatim. Comme nous le verrons à la fin de la vie de Yaakov, quand il veut bénir ses enfants, il les réunit en essayant de créer une cohésion, une solidarité, une union totale entre eux. Dans la paracha de la semaine dernière, Rashi souligne cela, qu'à présent qu'on a cité les descendants de Esav, à présent, donc rapidement on les a cités, leurs installations, leur développement, etc., rapidement. On va pouvoir se consacrer longuement à la destinée, à l'histoire de Yaakov et de la formation de Am Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, il y a quelques psukim qui semblent introduits ici, on ne sait pas pourquoi. Il dit « Ve'ele ha-melachim Hashem malchou be'eretz Edom lifne meloch melech al Israël ». Et voici les rois qui ont régné sur le pays de Édom. Avant qu'il y ait un roi, avant que ne règne un roi sur Israël. Et on cite 8 rois. Vayimloch be'Édom Bela ben Beor. Après il dit il est mort, Vayamot. Vayimloch Tartav Yovav ben Zerach mi Bosraï. Et au dernier roi, il est dit que le dernier roi, Vayamot Baal Hanan, le septième, Vayamot Baal Hanan ben Akbor, Vayimloch Tartav Hadar, Veshem Iropaou, Veshem Ishto Me'et Tavel, Bat Matrer Bat Mezav. Donc on nous cite dernier roi, Hadar il s'appelle, c'est la splendeur. On nous cite le nom de sa femme, Me'et Tavel. Et on nous dit le nom de sa ville. Et point final. Et ça s'arrête là. Cette histoire, ces psukim, ces rois sont mentionnés dans les chroniques, dans ce faire, au début de des chroniques des livres Hayamim, avec quelques nuances. Dans le dernier roi aussi, il est marqué là-bas, dans Ezra, quand il a écrit le Sefer des chroniques, le livre Hayamim, il marque là-bas que Hadar, il est mort aussi. Vayamot. Alors, de quoi il s'agit? Dans la Kabbalah, il est dit que ces 8 rois sont en fait 8 options, 8 facettes de la conduite divine. Il y a 8 temps, 8 facettes, 8 temps de la conduite divine. Et le dernier roi fait référence à la venue du Mashiach. Hadar fait référence au Tikkun HaOlam, la réparation des mondes. Donc il y a des périodes, des gens qui agissent, des rois, qui, et d'hommes faisant référence à la matérialité de ce monde. Mais Eretz Edom, dans le pays de Edom, dans la terre de Edom, ils ont régné. Donc ils ont dominé la matérialité. Mais ça a été éphémère, leur domination, leur règne a été éphémère. Ils règnent, ils meurent, ils ne laissent pas trace. Donc c'est une page qui tourne. Le seul qui laisse une trace sur laquelle il n'est pas dit qu'il est mort, c'est le dernier Hadar. Donc c'est-à-dire que l'impact, l'action qu'il va avoir dans le monde, elle sera définitive. Elle sera un impact définitif dans le monde. C'est ce qu'on appelle le Tikkun HaOlam. Le monde sera amené à réparer et il prendra toute sa splendeur. Hadar, la beauté, la splendeur. Il s'agit donc du Mashiach, il s'agit de la dimension d'Israël au moment de la délivrance finale. Quel madriga, comment sera composé le peuple d'Israël au moment de la délivrance, quand le Mashiach surgira. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans Divrei Hayamim, il est dit qu'il est mort. Alors ici, dans la Torah, Moshe Rabbeinu n'a pas marqué qu'il est mort, parce que le Mashiach, justement, il va, son intervention sera éternelle, sera définitive. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'il est mort. La question qui se pose, pourquoi Ezra a marqué qu'il est mort? Alors dans les Mkoubanim, on dit que Ezra n'était comme un médecin qui prend le pouls. Si quelqu'un est considéré comme mort, on n'arrive pas à sentir son pouls. Alors il faut apporter un spécialiste, quelqu'un de plus raffiné, qui sait déterminer si la personne est encore vivante. En fait, cette différence entre Ezra Sofer et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait prendre le pouls, bien que il semblerait que le corps de la personne est morte, il n'y a plus de pouls, donc il a cessé de vivre. Malgré tout, il reste quelque chose. On sent encore le pouls, il y a encore quelque chose, il est encore en vie. On peut le ressusciter, on peut le réveiller. Et Ezra, non. Ezra ne sait pas sentir cette différence-là. Il considère que, il pense que le corps de la personne qui est devant lui est mort. Donc, en Israël, il n'y a plus d'espoir, en fait. Donc, il y a deux niveaux dans l'appréciation de la spiritualité. Est-ce que la spiritualité d'Israël est encore vivante, sera encore vivante à la fin des temps? Et cette notion-là, fait référence véritablement à ce que nous allons voir, c'est la dimension de Yosef. Yosef est celui qui allume, en fait, qui va susciter la formation de l'âme Israël. C'est de par son fait que les Bnei Israël vont s'unir à la fin du parcours. Et les Mfarchim de dire que ce Hadar-là fait référence à la ferveur, à la joie de vivre, à la joie d'accomplir les mitzvot. L'essentiel, les gens savent pourquoi, les gens savent pourquoi ils font les choses. Mais c'est pas la raison, la Emouna elle-même, dans la théorie, qui pose problème. C'est la manière d'exprimer cette Emouna. L'accomplissement des mitzvot au quotidien, la routine, c'est-à-dire que Ezra à Sofer, quand il prend le pouls de Am Israël, il voit que la routine a envahi l'accomplissement des mitzvot et qu'il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas de vie dans les actions. C'est pour ça qu'il a marqué que Hadar, il est mort. Alors que Moshe Rabbeinu sait que il s'agit de juste insuffler un peu de vie pour que cette ferveur dans l'accomplissement des mitzvot se réveille. Et c'est ce qu'il est dit ici. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kanaan. Comme Rashi dit que Yaakov espérait s'installer dans la tranquillité, la sérénité, justement pour pouvoir accomplir parfaitement la Torah et les mitzvot. C'est ça son. Quel est. Alors, Chachamim dit, ça suffit pas, Kadosh Baruch Hu se plaint et critique Yaakov du fait qu'il veut la tranquillité. Il dit, ça ne suffit pas ce qui t'est réservé dans le monde futur, les tzadikim veulent aussi vivre dans la tranquillité en ce monde. On dirait que c'est un reproche, mais c'est pour mieux accomplir la Torah et les mitzvot. C'est pour mieux se consacrer à l'Avodat Hashem. Eh bien ça, c'est pas ce que HaKadosh Baruch Hu voulait. Il veut que Yaakov ait à affronter encore une dimension, une épreuve d'une dimension terrible, qui va lui permettre à la fin d'atteindre véritablement le summum de la Avodat Hashem, dans la ferveur de l'accomplissement des mitzvot. Exactement la dimension de ce huitième roi qui s'appelle Hadar, et qui fait référence au Mashiach. Alors l'idée est la suivante, c'est, nous allons voir que, à partir de cette paracha, Yaakov Avinu va souffrir. Quand bien même est-il installé en Eretz Israël, il va vivre une période galoutique d'obscurité totale, tout le temps où son fils Yosef bien-aimé, Ben Zikounim, celui à qui il a transmis l'enseignement de la Chochma Zaken, Zeshekana Chochma, l'essentiel de l'enseignement profond et fondamental a été transmis à Yosef. Et toute cette période-là, Yaakov Avinu va perdre la prophétie quand son fils va disparaître, va lui être arraché. Toute cette période-là, il va perdre l'inspiration divine, l'inspiration prophétique. Il va vivre dans l'obscurité, dans le deuil, un deuil qui n'en est pas un deuil véritable, c'est-à-dire qu'un deuil sur un vivant. En espérant, donc il est empêché d'exprimer sa ferveur. Et jusqu'au moment où il voit la finalité, il retrouve Yosef dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa fidélité à ce que lui-même lui a transmis. Et cette dimension-là ressemble parfaitement à la période de Hanouka. C'est-à-dire que le galout des galout Yavan est particulier dans ce sens, c'est que c'est un exil sur la terre d'Eretz Israël. Le temple est construit. Il y a le temple, mais c'est le temple qui est profané. Les Hellénistes, ceux qui ont adopté, les Juifs qui ont adopté la culture helléniste, qui ont voulu imposer les cultes et les pratiques grecques des Hellénistes, sont dominent le temple. Donc, c'est à ce sujet que nous disons les Grecs, qui sont en fait, sont pas des Grecs, ce sont des peuples qui ont adopté, qui ont été hellénisés, qui propagent la culture grecque, ont obscurci les yeux d'Israël. Vehosher, comme il est dit, Vehosher al penetéum, l'obscurité enveloppe les profondeurs, les abîmes, c'est la malchut yavan, qui shirchicha enem shel Israël. Donc on est dans une position, dans une période obscure, où on ne voit pas le bout du tunnel. Et c'est seulement, tout comme Yaakov qui est dans une période obscure, la période de Hanouka, des Hashmonaïm, c'est une période où il n'y a plus de prophétie. Le dernier prophète est mort 40 ans, à peu près 40 ans, après l'inauguration du second temple. Et là, nous sommes pratiquement 200 ans plus tard, un peu plus que 200 ans, après la disparition du dernier prophète. Donc à partir de là, Shimon HaTzadik, qui rencontre Alexandre le Grand, comme la Gemara le raconte, il n'y a plus de prophétie, mais il y a, à partir de Shimon HaTzadik, la transmission orale de la Chochma, de la science, de Divrei Chachamim, Torah Shebe'alpeh, et qui va prendre la forme que nous lui connaissons après les Hashmonaïm, au moment des Hashmonaïm, après les Hashmonaïm. Et cette obscurité va envelopper Eretz Israël et l'âme Israël. C'est en cela que l'exil grec est un véritable galout. Galout spirituel, alors qu'on est sur notre terre. Que le temple est établi. Mais le temple est profané. Et c'est seulement à la fin qu'on va voir comment on va surmonter cela. Alors l'idée est la suivante. C'est que l'obscurité des Grecs va causer l'oubli de la Torah. Et plus on avance dans le temps, et plus la Torah s'affaiblit. Notre connaissance de la Torah, notre maîtrise de la compréhension profonde de la Torah s'affaiblit. Notre pratique se relâche. On tombe dans la routine. Mais cette période-là va, et c'est la particularité qu'il y a dans l'obscurité grecque, elle va nous permettre de rebondir. Le fait que la Torah soit oubliée, le fait que nous soyons dans l'obscurité, ça va nous donner la force à travers le temps de développer un contre-feu et d'allumer les lumières. Donc c'est ça l'idée que mentionne Beit Hillel, la mitzvah. D'ailleurs, le Shulchan Aruch ne rapporte que cet avis-là quand il indique la mitzvah d'allumer Hanouka. Il ne rapporte que l'avis de Beit Hillel, alors que dans la Gemara, il y a trois moyens d'accomplir la mitzvah. Un ner chaque jour pour chaque famille, un ner pour chaque maison, c'est Ikar HaMitzvah. On allume selon Mehadrin, ils allument selon le nombre de personnes dans la maison. Et Mehadrin, Mehadrin, on leur dit, le premier jour on allume 8 et on va en diminuant. Et Beit Hillel disent, on allume, le premier jour on allume 1 et c'est au 8e jour qu'on allume, on va en progressant. Et cette idée d'aller en progressant telle qu'elle est mentionnée, c'est ce dernier avis qui est mentionné en Shulchan Aruch, uniquement, indique que certes, La Torah est affaiblie, l'obscurité, le galout grec a impacté, a introduit l'obscurité, et le mot obscur, hosher, fait référence à la shirra, à l'oubli, à la faiblesse de la compréhension qui est sous-jacent à l'oubli. Malgré tout, la Torah se développe. Donc, l'idée, c'est que moins on comprend, mais plus on est obligé d'expliquer. Moins on a d'accès, et plus on y va du commentaire. Et on voit que, au départ, la Torah était, si on veut, la bibliothèque de la Torah était réduite, et au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, c'est ça l'idée de Beit Hillel, elle se développe. Donc c'est comme si que l'obscurité a produit la lumière. Et c'est ça, l'obscurité dans laquelle est installée dans cette paracha, va s'installer Yaakov dans cette paracha, va produire la lumière, va permettre le fait que Yaakov est éloigné, que Yosef est éloigné de Yaakov. Comme si que Yaakov est la grande lumière et que Yosef est jeté. Donc la lumière ne rayonne plus, le temple n'illumine plus. Le fait que, donc, c'est le temps n'illumine plus, et Yaakov est postré dans l'obscurité, et Yosef est loin de lui, va permettre justement à Yosef de se développer et d'innover sa propre lumière. Et c'est seulement à la fin du parcours, Yaakov rencontrera Yosef et verra que le flambeau se lie à la lumière de Yosef. Et c'est ça le sens de la paracha. Et les toldot Yaakov, Yosef, la continuité de Yaakov, c'est Yosef dans sa réussite, dans sa progression, dans sa réussite, dans son épanouissement. Et c'est ça le sens de l'allumage des nérodes de Hanouka. Il raconte que HaKadosh Baruch Hu illumine Ahenu Bet Israël, Anisraim, Basara, Bashivia, qu'il les sorte de l'obscurité et à la lumière. Qu'il donne la force, qu'il illumine de la sagesse, du savoir, de la compréhension, de l'ingéniosité, de la puissance. Et qu'il accorde, qu'il illumine les armes Israël et qu'il permette aux Hayalim, qu'il les protège et qu'il permette aux Hayalim de vaincre les ennemis, nos ennemis. Zainu b'shem Adonai, osei shalom ma'im ba'aretz, ba'uch adonai le'olam, amen ve'amen.